m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à Restons Courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous.
Nous devrions attendre Étienne Darjac qui aura un petit peu de retard. Étienne Darjac qui ne manquera pas d'appeler à la démission d'Anne Hidalgo, car il ne sait peut-être pas encore qu'Emmanuel Grégoire a été élu maire de Paris. Énormément de sujets, énormément d'invités dans cette émission qui est presque une émission spéciale, cher Valentin, puisque dans quelques minutes, nous recevrons Pierre-Marie Sèvre, le directeur de l'Institut pour la Justice. Avec lui, nous reviendrons sur un projet sur lequel travaillerait le gouvernement qui s'apparenterait à un plafond carcéral. Un sujet que Pierre-Marie Sèvre va nous expliquer. Nous recevrons ensuite évidemment Nicolas Boutin pour sa chronique habituelle Territoire encarté. Avec lui, nous reviendrons sur une petite actualité qui défraie le club de football de Saint-Étienne, le club de balle au pied de Saint-Étienne, ce club mythique des années 70. Vous verrez que ça bouge certes sur le terrain, mais surtout dans les gradins. Nous recevrons ensuite l'écrivain Alexandre Jardin. Avec lui, nous reviendrons sur l'Assemblée nationale qui a entériné la suppression des zones à faible émission après moult péripéties. Nous y reviendrons bien évidemment avec l'écrivain bien connu, avec qui nous reviendrons aussi. Nous célébrerons à notre manière les 10 ans de La République En Marche, les 10 ans du parti d'Emmanuel Macron. À 18h30, nous recevrons l'essayiste Max Erwan Gastineau, essayiste bien connu, très spécialisé notamment sur l'Europe de l'Est. Avec qui nous reviendrons bien évidemment sur la fin du règne de Viktor Orban, sur l'élection de son successeur Peter Maillard, et nous verrons que Peter Maillard, soutenu par l'intelligentsia européenne, en réalité, se révèle finalement pas vraiment sur une ligne centriste, approuvée par la Macronie et ses alliés au Parlement européen. Et à 19h, sujet extrêmement intéressant également, puisque nous recevrons Meredith Raffray avec le rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Nous reviendrons sur l'affaire Lafarge, ou comment un ancien patron du CAC 40 se retrouve en prison en lien avec la guerre civile syrienne, en raison de finances. On l'accuse tout simplement, il était reconnu de financement du terrorisme, tout simplement, une accusation extrêmement grave, mais un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et en attendant Étienne Darjac et Pierre-Marie Sèvre, Valentin Gore, j'ai envie de vous dire l'autre sujet d'actualité, mais j'ai envie de dire qui est presque un marronnier maintenant depuis quelques années. Ouais. 1er mai oblige, certaines professions, boulanger en tête, puisque c'est peut-être sans doute la profession la plus emblématique dans cette crise, demandent à travailler, puisque finalement la France est peut-être un des rares pays au monde qui interdit à ses commerçants, qui interdit à toute une catégorie sociale professionnel, tout simplement de travailler, de gagner sa vie. Alors quand on est salarié, bien évidemment, ce n'est pas très embêtant, mais quand on est à la tête d'une profession libérale, quand on est indépendant et qu'on ne dépend que de son propre travail pour vivre, eh bien évidemment, ça crée un débat.
Bien sûr, ça crée un débat. Alors moi, je crois qu'à cette antenne, on sera tous assez d'accord pour dire que c'est une bonne mesure sur le fond. Je crois que c'est surtout la gauche et notamment la CGT qui voit là la remise en cause d'un intérêt très sectoriel. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est le calendrier, parce que c'est Gabriel Attal, nouveau candidat à la présidentielle, qui, dit-il, croit savoir comment il faut présider la France, ainsi qu'il le dit au journal Le Point. Gabriel Attal qui fait cette proposition, alors on en envie de dire ça vient un peu tard, parce que vous l'avez dit, c'est un marronnier, hein, c'est un sujet qui revient, son nom l'indique, tous les ans. Et peut-être est-il dommage que les macronistes aient attendu la dernière année du quinquennat, du décennat Macron, on pourrait dire, pour cette mesure qui serait passée évidemment comme une lettre à la poste entre 2017 et 2022, quand les macronistes avaient une majorité très large à l'Assemblée, et qui aujourd'hui, évidemment, dans cette Assemblée tout à fait éclatée, ne passera pas, hein, puisque Sébastien Lecornu, qui surtout ne veut pas avoir d'ennuis, a clairement fait savoir que ça serait pour plus tard. Hein.
Courage Fillon. Et d'ailleurs, je rappelle, chers auditeurs, qu'évidemment, cette émission est aussi la vôtre, que vous pouvez réagir à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au standard au 0145 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Nous, évidemment, nous lirons vos questions à l'antenne et nous tâcherons d'y répondre avec nos modestes moyens. C'est vrai que c'est toujours un sujet. On sait que le 1er mai, je pense que ça date vraiment de l'ère François Hollande, en lien un petit peu avec les débats autour de la loi travail, où de toute façon, le 1er mai est aujourd'hui une poudrière annuelle, puisque tous les ans, on a les cortèges d'extrême gauche avec leur violence, avec les dégradations, avec tout ce qui s'ensuit. Finalement, on a l'impression que le moindre sujet en France lié au travail est source de conflit et prêt à dégénérer. On sait que le gouvernement vit dans l'angoisse d'une deuxième crise des gilets jaunes suite à la hausse des prix sur le carburant. Est-ce que finalement, on a vraiment l'impression que même sur des sujets quand même à la marge, qui sont certes symboliques, mais qui ne vont pas changer le paysage économique et social, on a l'impression qu'à chaque fois, chaque gouvernement est tenu de marcher sur des œufs, Valentin Gore.
Oui, vous avez raison, bien sûr. C'est vrai que vous parliez de François Hollande. C'est vrai que la gauche s'est estimée trahie pendant le quinquennat de François Hollande, et c'est là qu'elle a effectivement passé un pas dans la violence. Cette remise en cause du travail, et nous avons eu l'occasion d'en parler il y a peu, elle doit aussi beaucoup à Lionel Jospin, évidemment, et aux 35 heures, puisqu'on a dit aux Français en 1997 avec Martine Aubry, puisqu'on ne peut pas augmenter les salaires, parce que d'habitude, quand la gauche arrivait au pouvoir, elle augmentait le SMIC ou le SMIG, comme on disait à l'époque, mais là, évidemment, c'était plus possible, déjà dans les années 90, dans une économie ouverte, et donc, il a fallu donner quelque chose. On s'est dit, puisqu'on ne peut pas vous augmenter votre salaire, on va vous réduire le temps de travail. Moyennant quoi, on a donné un peu plus de loisirs à des gens qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de s'offrir ces loisirs, de partir en vacances, d'offrir des abonnements sportifs ou culturels à leurs enfants. Donc on a induit ce logiciel de remise en cause du travail qui est vraiment un problème très français, vous avez raison.
On signale en toute courtoisie la sortie d'un passionnant essai d'Anne de Guigné, notre consoeur du Figaro, justement, qui s'interroge sur la relation qu'entretiennent les Français aujourd'hui avec le travail. Alors on pourrait penser effectivement que les Français sont des fainéants qui ne veulent travailler. En réalité, le travail de notre consoeur est très intéressant parce qu'il démontre que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et elle démontre notamment chiffres et études à l'appui que finalement on est peut-être moins motivé par le travail aussi parce que pour doubler notre niveau de vie, il faudrait cela prendrait 90 ans en moyenne sur le marché du travail, évidemment. Un chiffre qui a doublé voire triplé par rapport aux générations précédentes. Donc évidemment, c'est comme pour la natalité, c'est comme pour l'immigration, c'est évidemment une conjugaison de facteurs qui fait qu'évidemment c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que l'on croit. À propos de complexité, Pierre-Marie Sève, directeur général de l'Institut pour la Justice, nous a rejoint. Bonsoir Pierre-Marie, comment allez-vous ?
Bonsoir à tous et à tous les auditeurs.
Alors, vous avez relevé, Pierre-Marie Sève, une information qui a, d'après vos mots, failli passer inaperçue, mais qui est en tout cas capitale d'après vous. Je lis, le gouvernement veut créer un plafond carcéral, c'est-à-dire une limitation artificielle du nombre de détenus en prison. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? En détail.
Alors, il faut remonter un petit peu le temps. En fait, ça fait une dizaine d'années, suite à le contrôleur général des prisons. Ça ne parle pas au grand public, mais c'est une officine publique, une autorité administrative indépendante.
Absolument.
Très militante. C'était à l'époque, la contrôleur général des prisons était l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, pour vous donner une idée. Et c'est public, c'est une autorité administrative indépendante. Et cette dame avait préconisé ce qu'elle appelait une régulation carcérale, c'est-à-dire face à la suroccupation de nos prisons, et parce que nous avons refusé, combattu en tant que personne de gauche, Madame Hazan, la contrôleuse des prisons, la construction de prisons, puisque nous avons refusé la construction de prisons, nous avons trop de détenus, et plutôt que de construire des prisons et de faire notre mea culpa, nous voudrions bloquer le nombre maximum de détenus, et donc il serait impossible de mettre plus de 100% du nombre de places prévues. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a 86-87 000 détenus en France, on a 62-63 000 places, donc il faudrait libérer en gros 15 000 détenus. C'était ce qu'elle préconisait, donc c'était la régulation carcérale. Et ensuite, on a eu donc une grosse pression de la part de la gauche jusqu'à Florent Boudier, le président de la commission des lois, qui est Renaissance mais issu du PS, qui récemment, l'été dernier, a annoncé qu'il voulait mettre en place cette régulation carcérale. Donc une très forte pression. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, avaient résisté à cette pression, non sans mal, on sentait que ça les mettait très mal à l'aise. Et là, Gérald Darmanin, qui prévoit par ailleurs des bonnes mesures, là il fait des projets de loi.
Ouais, on va y venir sur Gérald Darmanin, bien évidemment, parce que c'est incroyable que ça vienne de lui, en fait, tout simplement.
Ben oui, oui. Et en fait, ça vient de lui parce que, à la différence de Dupond-Moretti et de Belloubet, lui, il prévoit des mesures un peu plus offensives par ailleurs. Sauf que le problème, pour faire avaler ces mesures offensives, il est obligé d'accepter, enfin je pense, c'est mon analyse, je pense qu'il est obligé d'accepter cette, ce qu'on appelle, nous, le plafond carcéral, puisqu'en fait, ce n'est pas exactement une régulation carcérale, mais pas loin. La régulation carcérale, c'est 100% d'occupation maximum. Mmh. Bon, ben, Gérald Darmanin semblerait préconiser plutôt 130 à 150% maximum, ce qui est mieux, mais enfin, c'est le même principe. Et donc, pour faire accepter ça, il est obligé de faire passer cette régulation carcérale pour faire accepter d'autres mesures un peu plus fermes. Mais le problème, c'est que cette mesure, en fait, la fermeté de la justice, elle se mesure avant tout par une chose, c'est le nombre de délinquants qui sont en prison. La France souffre d'un problème d'insécurité depuis 40 ans, qui est parmi les plus importants en Europe, si ce n'est le plus important. Eh bien, il est normal que nous incarcérions plus que nos voisins, ce que nous ne faisons pas. Nous avons moins de prisons que nos voisins, nous incarcérons à peu près autant que nos voisins, mais c'est surtout pas libérer des détenus qu'il faut faire maintenant, et malheureusement c'est ce que prévoit ce projet de loi qu'a annoncé Gérald Darmanin il y a deux jours.
Alors Gérald Darmanin qui est quand même, pour une fois j'ai envie de dire qu'on a un ministre de la justice qui est très offensif justement sur la nouvelle des créations de nouvelles places de prison. Je vais faire l'optimiste Béa, on peut supposer qu'avec le nombre de places de prison qu'il va ouvrir, eh bien ce seuil de 130% pourrait ne jamais être atteint, Pierre-Marie Sauvé.
Non, il est déjà largement atteint déjà, et même s'il construisait des prisons, je vous le dis tout de suite. En fait, en plus, c'est pas un seuil. Là, les chiffres dont on dispose, ce sont des chiffres généraux. On est aujourd'hui à 130 et quelques de surpopulation carcérale, de suroccupation carcérale. En fait, il suffirait pas de baisser 7%, parce qu'en fait, c'est 130% dans chaque établissement. Donc, en fait, c'est plus que 7% de baisse. En fait, la communication du ministre, pour le moment, c'est qu'il semble avoir choisi, c'est celle de l'interdiction des matelas au sol. Plus de matelas au sol. Bah oui, moi le premier, j'ai pas envie qu'il y ait des matelas au sol. Mais pour ça, la solution, c'est pas de libérer les gens qui dorment sur les matelas, c'est de construire des lits, des cellules, des places de prison par ailleurs. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près, et si donc la loi Darmanin devait être votée et mise en œuvre immédiatement, je crois qu'il avait prévu, il semblait prévoir un certain délai pour pouvoir construire des places de prison, mais je ne vous le dis, en 10 ans, Emmanuel Macron en aura construit 4000. Aujourd'hui, on a 6800 personnes sur des matelas au sol. On ne va pas construire 6800 places de prison en 1 ou 2 ans. C'est strictement impensable. Donc on peut apprécier les efforts qu'il a fait, Gérald Darmanin. Il a fait des efforts pas tonitruant, mais tout de même intéressant, avec 1500 places de prison préfabriquées, donc qui vont être construites normalement assez rapidement. Mais je suis désolé, il est évident que nous libérerons des personnes qu'il ne faut pas libérer si ce projet de loi va jusqu'au bout.
C'est terrible parce que vous l'avez un petit peu évoqué, mais quand on regarde les prédécesseurs de Gérald Darmanin au ministère de la Justice, on a eu effectivement la socialiste Nicole Belloubet, on a eu Éric Dupond-Moretti, alors qui n'est pas encarté au Parti Socialiste, mais dont l'idéologie gauchiste n'a jamais été spécialement planquée. On se disait tiens, un ministre de la Justice de droite qui en plus a été ministre de l'Intérieur, donc il a un peu vu qu'il y a quand même la réalité. Il y a eu la réalité de l'insécurité sous les yeux pendant plusieurs années. Comment expliquer justement cette obligation que la droite se donne de donner systématiquement des gages à la gauche pour rester général, Pierre-Marie ?
Parce que Gérald Darmanin fait partie d'un gouvernement du centre. Et le centre, et à ce titre, Gérald Darmanin étant un macroniste de la première heure, je pense que c'est avant tout un homme de centre droit, mais donc il fait du « en même temps ». C'est-à-dire que d'un côté, dans le projet de loi qu'il annonce, il annonce des bonnes choses. Par exemple, je vous donnais un exemple, la suppression des aménagements de peine ab initio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes condamné à une peine de prison ferme au tribunal, le tribunal doit automatiquement, si elle fait moins de 12 mois, automatiquement la transformer en autre chose, en prison à la maison, PlayStation à la maison, qu'on appelle bracelet électronique. Et donc, il fait passer des bonnes mesures. Mais comme il fait du en même temps, parce que c'est l'ADN du centre de faire du en maintenant, parce qu'il faut à la fois pas trop... il faut accommoder un petit peu le centre-gauche, un petit peu le centre-droit. Bon, bah, faire passer des mesures de centre-droit, Gérald Darmanin doit faire passer des mesures de centre-gauche. Et parmi c'est la première demande de la gauche depuis 10 ans, depuis 2017-2018, c'est la régulation carcérale. Et donc là, c'est ce qui nous met en place, une espèce de régulation carcérale light, qui est moins radical que ce qui était proposé, mais le principe reste absolument le même, et ce principe reste scandaleux, c'est qu'on incarcère des gens, non pas en fonction des crimes qu'ils ont commis, non pas en fonction de leur dangerosité, mais en fonction du nombre de places dont nous disposons et que l'État a bien voulu construire. C'est tout sauf de la justice.
Et dernière question, Pierre Marissef, puisqu'on est, on a bien compris que ça venait à la base de la contrôleur générale des prisons. Comment expliquer, pardon pour la question un petit peu bateau, que ce genre de poste est quand même extrêmement stratégique et qui a été rendu stratégique alors qu'en réalité peut-être qu'il ne devrait pas exister. Pourquoi est-ce que ce poste est un apanage de la gauche? On a toujours eu je vais pas dire forcément des personnalités abolitionnistes, c'est pas vrai, mais si vous voulez, on a l'impression que ce poste a toujours été occupé par des gens ayant ce prisme, alors qu'en réalité leur travail ce serait mis de contrôler que l'incarcération se fasse dans de bonnes conditions et donner des initiatives en ce sens, pas avoir l'obsession de sortir les gens de prison en fait.
Oui, alors ce poste-là a été créé déjà suite à des obligations internationales, mais sous Nicolas Sarkozy. Au tout début, Nicolas Sarkozy, en fait, ça avait été lancé avant, plutôt sous Jacques Chirac. Et le premier détenteur de ce poste, comme souvent avec la droite, le premier détenteur de ce poste était une personne assez neutre. C'était Jean-Marie Delarue. Bon, il n'a pas posé de problème, il faisait assez l'unanimité. Mais une fois que la gauche est arrivée au pouvoir, avec François Hollande, puis en l'occurrence Emmanuel Macron, je vais vous le démontrer. Donc François Hollande a nommé Adeline Hazan, qui est l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature. On peut difficilement faire plus à gauche
en effet.
Comme nomination, donc ce n'est pas du tout quelqu'un de consensuel, oui, au contraire.
Donc abolitionniste, ce n'était pas trop...
voilà.
Ouais.
Et en 2020, Emmanuel Macron, qui se dit central et qui avait fait en même temps, encore une fois, mais cette fois c'était un coup à gauche, a nommé Dominique Simonneau. Dominique Simonneau, c'est une ancienne journaliste de Libération, très connue pour des positions très radicales aussi à gauche. Et donc, elle nous gratifie de sorties systématiquement les plus laxistes que vous pouvez imaginer. C'est la personne, encore pire que syndicat de la magistrature, c'est la voix dans le débat public la plus à gauche sur les questions de justice pénale. Et donc, tous les mois, on la voit pleurer sur l'augmentation du nombre de détenus, etc., etc.
Ouais.
Donc voilà, c'est encore une fois, la droite a été prise au piège, enfin s'est laissée prendre au piège plus exactement, puisqu'elle a nommé une personnalité neutre lorsqu'elle l'a pu, mais la gauche n'a absolument pas pris ces précautions-là, et on a eu des militants, on a eu deux militantes, comme contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est le nom exact, et c'est une officine qui nous coûte quand même quelques millions par an, hein, je crois que c'est 4 millions par an, donc voilà, pour faire de la propagande payée par l'État, moi ça me pose problème.
Ouais, bon bah merci la droite du coup. Et merci à vous Pierre Marissef d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet. On rappelle que le gouvernement travaille sur un projet de plafond carcéral, c'est-à-dire au seuil de 130% d'occupation, et bien procéder à des libérations anticipées. Cela afin d'améliorer les conditions de vie en prison, mais cela évidemment, et ils le savent, cela se fera contre une grande partie de l'opinion publique qui au contraire demande plus de fermeté et moins de laxisme. Merci Pierre Marissef et à très bientôt.
Merci à vous.
Restez avec nous chers auditeurs puisque l'émission continue. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes dans l'émission Restons Courtois sur Radio Courtoisie. Restons Courtois du jeudi, Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et nous accueillons Étienne Darjac sur ce plateau. Étienne Darjac qui arrive avec quelques minutes de retard. Vous allez encore appeler la démission d'Anne Hidalgo ou d'Emmanuel Grégoire?
Non, c'est pour une fois, ça n'a rien à voir avec eux. C'est juste que contrairement à vous autres journalistes, j'ai un vrai travail. Et donc, à 17h30 en pleine semaine, c'est parfois délicat. Mais je suis bien là.
Voilà, nous c'est un travail d'être là, et pour vous finalement c'est un loisir, c'est un hobby presque.
C'est un peu
en fait,
comme certains vont au tennis. Voilà.
Mais vous allez voir, c'est tout aussi sportif que le tennis, pour ne pas dire le paddle, ce sport à la mode. Mais quand vous n'êtes pas cadre à la défense,
très peu à la mode.
Vous ne pratiquez pas ce sport. Justement, à propos de mode, j'avais posé la question à Valentin Gore, Étienne Darjac. Mais puisque vous êtes là, vous allez pouvoir nous donner votre opinion. Vous avez vu ce débat autour du 1er mai. Beaucoup de Français demandent à travailler. Je pense aux boulangers, je pense à finalement à la plupart des indépendants. Vous-même, Étienne Darjac, travailler le 1er mai, y êtes-vous favorable ou opposé?
Moi, je suis parfaitement favorable, oui. Autant si la question était posée pour certains jours fériés profondément ancrés dans la culture de ce pays, donc notamment les fêtes religieuses chrétiennes, la question pourrait se poser un peu plus. Avec un peu plus de sérieux, autant là, oui, moi j'ai aucun attachement à titre personnel au 1er mai, vous l'imaginez bien. Par ailleurs, depuis que je travaille, je n'ai jamais pas travaillé les jours fériés, donc je suis très peu sensible à ce genre de sujet. Donc oui, évidemment, les gens qui veulent travailler le 1er mai doivent pouvoir travailler le 1er mai.
Mmh. Sans transition aucune, chers auditeurs, il y a un sujet qui occupe l'actualité. Alors, c'est le projet de loi, la proposition de loi Yadan, du nom de Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger, élue dans la circonscription qui comporte notamment l'État d'Israël. Caroline Yadan, qui a proposé une loi visant à sanctionner l'antisionisme, au fond, partir du principe que l'antisionisme, c'était de l'antisémitisme, et là où certains, ses défenseurs, y voient une loi améliorant la lutte contre l'antisémitisme, et dans un contexte de tensions liées à la question palestinienne, à la limite, on pourrait trouver une raison. D'autres, au contraire, y voient une attaque absolument insupportable contre la liberté d'expression. Alors, il faut rappeler qu'une pétition a été lancée contre cette proposition de loi, pétition largement relayée par la France Insoumise, une pétition qui a recueilli, je crois, 750 000 signatures, ce qui est absolument colossal. Et plutôt que de traiter cette pétition, l'Assemblée nationale a tout simplement a choisi de retirer cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, tout simplement, Valentin Gore?
Sur ce dernier point, on peut dire que c'est un peu l'échec de la démocratie participative, certainement, même si je crois que c'est assez technique en réalité, parce que ce débat, en vérité, ne servira à rien, puisqu'il va déjà y avoir un débat. Mmh. Les députés vont déjà débattre du bien fondé ou non de cette disposition. Donc il n'y a peut-être pas besoin, si j'ai bien compris, de refaire le même débat juste après pour savoir s'il faut débattre sur le débat. C'est un peu compliqué.
Voter à main levée pour savoir si vous voulez voter à main levée. En quelque sorte.
Mais en tout cas, moi, j'ai du mal à comprendre ce que cette loi apporte dans la lutte contre l'antisémitisme, qui est évidemment un combat très juste. Mais je ne crois pas que ça soit par des interdictions gravées dans la loi. On a eu à ce titre, il y en a eu beaucoup, la dernière en date, c'était la loi Guesso. Je ne suis pas certain que ça soit forcément dans ce cadre-là qu'on puisse faire changer les choses. Je ne crois pas que des gens qui sont antisémites vont cesser de l'être. Est-ce que la loi Yadan va être votée? Ça me paraît vraiment typique de nos politiques d'aujourd'hui, qui pensent qu'il suffit de voter une loi pour supprimer tel ou tel problème. On peut faire de même aussi pour la pauvreté ou pour je ne sais quoi, pour la tuberculose, tant qu'on y est.
Étienne Darjac, sur ce sujet, est-ce que c'est d'après vous une bonne initiative ou...
Non, c'est évidemment absolument grotesque. Moi, j'irais plus loin que Valentin, je ne vais pas vous surprendre. Valentin, vous dites que ça ne sera pas très efficace pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, je pense que même que c'est c'est jeter de l'essence sur l'antisémitisme, c'est... Si vous voulez, c'est mettre l'État d'Israël en dehors du rang des nations, en faire une espèce de structure indépendante, incritiquable. Alors, on a le droit de critiquer tous les pays, tous leurs projets politiques, leur histoire, mais Israël, non. Posé comme ça, c'est absolument grotesque, et on voit très bien, et je le dis sans ironie, que ça n'est que donner du carburant à ceux qui seraient amenés à penser que l'État d'Israël est particulièrement protégé en France ou dans les pays occidentaux. Donc c'est grotesque, mais c'est grotesque comme le sont par ailleurs, et je vais tenir là une position qui va peut-être agacer certains auditeurs de Radio Courtoisie, c'est tout aussi grotesque que la plupart, là, je dis bien la plupart, pas toutes, des accusations en antisémitisme qui visent la France insoumise depuis 2 ans. C'est, le sujet est devenu grand guignolesque. Je crois que la dernière en date, c'est sur CNews que... alors je sais plus comment ça
Rachel
s'appelle.
Kahn. Rachel Kahn, je sais exactement ce que vous avez raconté comme anecdote.
En fait, certains militants insoumis ont célébré, ils auront bien le droit d'ailleurs, la victoire de David Guiraud à Roubaix,
ville du Nord,
en disant "Vive le roi du Nord", qui est une référence que à peu près tout le monde a
Game of Thrones, jeu du trône, pour nos auditeurs.
Et Rachel Kahn a réussi à nous dire que en fait c'était une ref antisémite au roi David. Ce qui, déjà, en soi, est grotesque. En plus, si les antisémites trouvent amélioratif de comparer leurs amis au roi David, ça n'a aucun sens.
Ouais. Et alors, le royaume d'Israël, dans le nord, surtout, c'est vrai que ça n'a aucun sens.
C'est évidemment un exemple paroxysmique et tellement grotesque que même les aficionados de ce genre de critique n'ont pas repris. Elle était toute seule dans ce combat, du merci Rachel Kahn. Mais c'est, je trouve, c'est l'acmé de ces accusations, le plus souvent grotesques, pas toujours, encore une fois, je le redis. Il est évident qu'une partie de l'électorat mélenchoniste est antisémite. Il est évident, sans doute, que certains cas de la France soumise surfent un peu sur ces sujets-là. Maintenant, moi, je viens d'un camp politique qui a été diabolisé et traité de tous les noms pendant des décennies. Je n'ai aucun plaisir à voir d'autres gens Je suis bien le même sort.
Et ce qui est très amusant avec la proposition de loi là-dedans, c'est que du coup, en théorie, des appels publics prônant explicitement la disparition d'un État pourraient tomber sous le coup de ce texte. Donc, on rappelle que ce texte prévoit quand même une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, c'est absolument colossal. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait un discours anti-France, quelqu'un sur le sol qui dirait, qui appellerait à la destruction de la France, pourrait être passible d'une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
En fait, ce qui est terrible,
c'est que, effectivement, je pense que c'est toujours plaisant pour les opposants à une proposition de loi de le retourner un petit peu potentiellement à leur avantage, mais en fait ce qui est terrible c'est que pour moi, à mon sens, et je vais donner mon point de vue personnel bien évidemment, cette proposition de loi c'est un outil rêvé pour tout dictateur en puissance aussi, puisque ça œuvre vraiment au verrouillage de la pensée et au fond à l'impossibilité d'un débat, et on l'a vu je crois lorsque Rima Hassan a été mise en garde à vue pour apologie du terrorisme. C'est là où on voit les limites un petit peu justement de l'arsenal judiciaire contre la liberté d'expression, puisque en réalité Rima Hassan a simplement gagné un brevet en martyrologie de son vivant. Donc c'est peut-être l'appel qu'il faudrait lancer, c'est que plutôt que de vouloir criminaliser la pensée aussi insupportable soit-elle, eh bien peut-être qu'il faut simplement lui opposer la raison et les idées, tout simplement. Valentin Gore.
Très belle conclusion, cher
Merci.
Marc.
Merci.
Je le dis, bien sûr.
J'applaudis un peu.
Mais je crois que, au sujet de cette loi, ce qu'on peut dire aussi, moi j'ai écouté cet extrait de Madame Yadan sur RFI, je crois, on lui a opposé, mes chères madames, par exemple, si quelqu'un appelle à la destruction de la Palestine, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a elle-même reconnu que la loi s'appliquerait dans ce cas-là.
Il va falloir fermer 24.
Et la destruction de la Corée du Nord, et la destruction de la Russie aussi, et de l'Iran d'ailleurs. Il faudrait peut-être emprisonner Trump qui a appelé à la fin de la civilisation, iranienne.
Ce titre, absolument.
Ouais, voilà. C'est Caroline Yadan plus forte que le tribunal pénal international.
De l'art de se tirer une balle dans le pied, en somme.
Bon, en tout cas, voilà, de criminaliser la pensée, voilà, ce sont les risques de telles idées qui sont, enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tout le monde connaît la formule. Je rappelle d'ailleurs, chers auditeurs, que si vous voulez réagir à cette émission, donc, Restons Courtois, du jeudi, animée par Valeurs Actuelles sur les ondes de Radio Courtoisie, eh bien, vous pouvez au 0146 51 00 85 ou par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur la loi Yadan. Il y a un autre sujet, alors il revient régulièrement dans cette émission parce que c'est peut-être mon petit tropisme de rubricard de la gauche. Tout le monde a lu Marianne cette semaine.
Ah oui.
Qu'est-ce que je suis content qu'on parle de ce sujet.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, chers auditeurs, peut-être que vous n'êtes pas de fidèles lecteurs de Marianne, et grosse interview gros entretien finalement pour lequel Marianne a fait grand tapage. On a reçu été inondé de communiqués pour s'assurer qu'on a bien suivi la sortie de ce numéro, où François Hollande finalement titre de l'entretien, je me prépare. Il se prépare à quoi? Eh bien évidemment avec son présidentiel 2027. Il n'a pas pour autant fait acte de candidature, mais on a vu cette sortie du bois qui était commentée, pour certains attendue. On va d'ailleurs seulement dire qui attend réellement ça. En tout cas, c'est évidemment une tentative de l'ancien président de la République de se replacer dans le jeu politique. Valentin Gore, ça vous surprend cette initiative de François Hollande?
Non, parce que vous l'avez écrit, Marc, on l'a dit beaucoup ici même à ce micro, je crois que personne n'est surpris, parce qu'en vérité, chacun sait bien que François Hollande, qui a comme particularité de n'avoir absolument aucune passion personnelle dans la vie autre que la politique, et peut-être les femmes aussi, mais ça c'est autre chose. Mais je crois que c'est vraiment un être très politique, donc à la seconde même où il a quitté l'Élysée en 2017, je pense qu'il a prévu et qu'il a, si j'ose dire, pris son mal en patience, en se disant qu'il y aurait un coup à jouer, peut-être 5 ans après, ça a été plutôt 10 ans après en l'occurrence. Dans cet entretien à Marianne, alors on en discutait hier, bien sûr c'est assez intéressant, le fond de l'entretien, il n'y a pas grand chose honnêtement de révolutionnaire, mais c'est assez intéressant de devoir choisir Marianne, qui est plutôt la gauche qu'on aurait qualifiée jadis de souverainiste, peut-être de la gauche qui voudrait bien mettre un bémol par exemple sur les questions d'immigration, qui n'est pas très encline au wokisme. Donc c'est assez intéressant parce que en 2016, quand il envisageait de se représenter à sa propre succession, c'était au Nouvel Obs qu'il avait fait cet entretien qui s'appelait l'Obs à l'époque. Mmh. Donc tout ça nous dit que finalement ce François Hollande, il a une carte à jouer, parce que les Français y ont gardé quand même un fond chrétien, même chez les plus sécularisés, ils ont une très grande proportion au pardon.
Et ils aiment bien...
je crois que c'est même le pardon. Je crois que les Français aiment bien, ils mettent une gifle à un moment, ans, puis après 5 ans, ils ont un peu des remords, des scrupules, et tout d'un coup, les gens retrouvent une popularité. Mais c'est un grand sujet.
Étienne Darjac, est-ce que votre christianisme vous pousserait jusqu'à pardonner à François Hollande ?
Écoutez, en tout cas, on pardonne sans doute plus facilement à ses ennemis qu'à ses amis. Je pardonne sans doute plus de choses à François Hollande que j'en pardonne à Nicolas Sarkozy, par exemple.
Qui a donc fait partie de vos amis, on l'apprend à l'instant. Enfin,
vous parliez vous-même de la droite tout à l'heure pour parler de Nicolas Sarkozy, c'est un choix qui vous regarde.
C'est vrai, non, c'est un point partout. Très bien, j'accepte le point, Étienne.
Non, écoutez, alors sur François Hollande, moi, je suis un être double. J'ai une partie de moi qui est un fan de politique et qui adore cette histoire et qui d'ailleurs en parle depuis longtemps avec notamment vous deux, et qui ne rêve que de ce scénario, qui est un scénario extraordinaire. Il y a un double récit. Il y a le premier récit qui est la vengeance de François Hollande chassé du pouvoir par Emmanuel Macron et qui au bout de 10 ans de ruine et de cadence revient la fleur au fusil tout fringant.
Pour remettre les dernières runes par terre, d'ailleurs.
Non, pour reprendre le trône que son ancien chouchou, son ancien favori lui a volé. Donc ça, c'est déjà en soi un récit. J'ai déjà hâte de lire les romans politiques qui seront écrits là-dessus à l'issue. Le deuxième récit, c'est évidemment ce François Hollande ressuscité par le siège que lui a offert Jean-Luc Mélenchon en 2024. Alors il faudrait peut-être se poser la question, relire les articles de l'époque sur... Pourquoi est-ce que Mélenchon a cédé là-dessus ? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps ?
Je peux répondre à cette question, si vous voulez.
Si vous voulez bien, cher Marc.
Je vous en ai terminé d'abord votre propos, Étienne Dardet.
Il y a ce récit de Hollande et la gauche social-démocrate, grand remplacé par Mélenchon pendant 10 ans, grâce à Emmanuel Macron par ailleurs, et qui finalement, grâce à son pire ennemi, grâce à celui qui a juré sa chute et qui a juré de le remplacer, revient sur le devant de la scène. Quand on est un peu fan de politique, je mets les idées de côté, évidemment, bien sûr. Quand on est un peu fan de politique, c'est formidable cette histoire.
C'est croustillant.
C'est croustillant, moi j'en frétille déjà. Et c'est là où j'aimerais être journaliste et pas militant et pouvoir profiter un peu de ça avec du recul, parce que je ferais pas mal, évidemment.
En fait, ce qui a été fabuleux avec cette déclaration de candidature de François Hollande en 2024, c'est qu'elle s'est faite de manière naturelle depuis la Corrèze. Oui. Donc évidemment, l'intégralité du Parti Socialiste Corrèze, qui savait que de toute façon il obtenait de la circonscription, il a évidemment laissé la place à François Hollande. Et le pire, c'est qu'Olivier Faure l'a appris en direct par un journaliste, Paul Larouturou, qui a une manifestation contre la réforme des retraites, qui vient interviewer Olivier Faure et qui lui dit que pensez-vous de la candidature de François Hollande. Et Olivier Faure le regarde interloqué, sans pardon. Ah oui, il vient d'annoncer qu'il était candidat. Ah d'accord, enfin je sais.
Et Mélenchon, alors, il a.
Mais en fait, il n'y avait rien à dire, puisque de toute façon, cette circonscription était donnée au Parti Socialiste. François Hollande est toujours membre du Parti Socialiste, est un ancien président de la République, donc dans l'absolu. Et puis je pense qu'effectivement Olivier Faure l'a pris très mal, mais il ne pouvait pas s'y opposer. Jean-Luc Mélenchon, pour lui c'était peut-être un bonbon un petit peu de voir Olivier Faure se dépatouiller avec...
Il n'est pas interdit qu'il s'en mord les doigts.
Oui, absolument. Justement, c'est la suite du débat. Oui, c'est la suite du débat, puisque...
Je suis tout excité.
Le retour... Je suis pas sûr que nos auditeurs partagent cette même excitation. Si vous voulez d'ailleurs insulter Étienne Darjac parce que vous trouvez beaucoup trop enthousiaste à l'idée du retour de François Hollande, vraiment n'hésitez pas. Donc évidemment, toujours...
Je mettais les idées de côté.
01 46 51 00 85 courtoisie@rc.fr. Là où l'enjeu à gauche est effectivement fort, c'est que Jean-Luc Mélenchon est candidat, enfin, en tout cas, n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle, mais cela ne fait aucun mystère. La gauche anti-Mélenchon est devant une énorme problématique, c'est que, déjà, la seule chose qui la fédère, c'est qu'elle est anti-Mélenchon. Ce qui est, il y a se présenter contre, et bien en fait, ça ne fait pas un programme. Et surtout, elle n'a personne. C'est-à-dire que les deux seules personnes les mieux placées sont effectivement Raphaël Glucksmann, qui a pour lui, effectivement, d'avoir quand même redonné un peu le goût de la victoire à la gauche à les élections européennes, mais qui a quand même un sacré défaut d'incarnation. Et surtout, qui est seul. D'ailleurs, son parti Place Publique, c'est amusant. Vous savez, cet endroit qu'on traverse, mais on ne s'y arrête pas. Raphaël Glucksmann, ça le représente assez bien. Et François Hollande, qui a eu certes une incarnation, une expérience politique, mais qui est aussi, pour reprendre la formule de Mitterrand, l'homme du passif. Défendre le mandat de François Hollande, sur qui a accouché en plus de 10 ans de macronisme, évidemment, c'est qu'elle soit quelque chose de peu supportable. Et la nouvelle génération politique qui a pris le pas depuis 2017, eh bien, n'a peut-être pas très envie de réassumer cela, dans la mesure où ils se sont tous construits justement contre ce bilan. Enfin bref, c'est une équation assez insoluble. Et un conseiller du nouveau Front Populaire m'avait d'ailleurs soufflé, il serait quand même urgent qu'ils se mettent d'accord, on va quand même pas appeler à voter Édouard Philippe dès le premier tour. Donc c'est un petit peu la difficulté. Est-ce que Hollande en adversaire de Mélenchon, est-ce que c'est crédible, Étienne? Bon, Étienne, allez-y, parce que je sens que vous trépignez.
Ça vous fait tellement plaisir, je vous cède la place volontiers.
Oui, c'est particulièrement crédible, vous l'avez dit. En fait, une fois qu'on a posé la question Hollande, la question qu'il faut se poser, c'est qui d'autre? Glucksmann, c'est évidemment une farce, tout le monde le sait. Olivier Faure, je vous en parle pas.
Vous pouvez, si vous voulez. Mais là, on va perdre nos derniers auditeurs, là, si vous faites ça, Étienne. Voilà.
On a déjà Marine Tondelou qui va partir de son côté, c'est acté. Donc, si vous voulez, en fait, quand vous avez, toute chose égale par ailleurs, un poids lourd pareil qui s'avance et qui dit « moi, j'y vais », bah derrière, c'est un peu compliqué pour ceux qui tentaient d'exister avant, de dire eh non, bon, voilà. Donc c'est une première chose. Ensuite, là, ce qui rend la chose particulièrement crédible, c'est ce qui va rendre la présidentielle 2022 passionnante et très angoissante, par ailleurs. C'est que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et beaucoup de gens le disent, évidemment, on va avoir un seuil d'accession au second tour qui va être particulièrement bas. Qu'il est mécaniquement d'abord, parce que quand on a un candidat en tête qui est donné à entre 30 et 35%, nécessairement le deuxième ne peut pas faire 20-25%. Ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va avoir, on est parti pour avoir 56 candidatures. On l'a dit, il y a la gauche mélenchoniste, la gauche non mélenchoniste, où il y aura au moins deux, voire trois candidatures. Il y a Villepin, il y a Retailleau, il y a Wauquiez, il y a tous les macronistes qui veulent candidat, donc Philippe, Attal, Darmanin. Il y a Marine Le Pen, Jordan Bardella. On peut avoir un second tour où le deuxième qualifié fait 15%. Donc dans ce contexte-là, si vous voulez, les dynamiques de pré-campagne vont avoir peu d'importance, et c'est à qui fera la meilleure campagne. Dans ce contexte-là, si vous voulez, à qui fera la meilleure campagne entre Raphaël Glucksmann et François Hollande, je suis pas très inquiet pour François Hollande.
J'ai une réponse. Valentin Gore, pour conclure cette séquence, avant d'accueillir notre cher Nicolas Boutin, s'éloigner un petit peu de Paris et de ses préoccupations qui désespèrent les gens.
C'est juste après qu'on était un peu en Corrèze. Mais non, il y a eu quelque chose d'intéressant samedi dernier à la Cité internationale universitaire. C'était ce débat organisé par les GRAC, qui est ce groupe de sociolibéraux, de fonctionnaires sociolibéraux entre Édouard Philippe et François Hollande. Et on a vu d'abord que c'était finalement des personnages qui se ressemblaient assez sur le plan du tempérament, on le savait.
Vous nous décrivez une vision de l'enfer un petit peu.
C'était intéressant, c'était plutôt intéressant, parce qu'on a vu évidemment des convergences, aussi des différences. Et puis ce qui est intéressant, c'est le point de vue de ces GRAC, qui ont en 2007 poussé à une alliance royale, Bayrou qui ne s'est pas faite, mais qui n'a pas été très loin de se faire. En 2012, ils ont appelé à voter François Hollande. En 2017, ils ont beaucoup soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. Donc ce sont des gens quand même qui ont une certaine influence et qui ont dit dans une tribune aux Échos, ces hauts fonctionnaires sociolibéraux, comme ils se présentent, ils ont dit il faut maximum deux candidatures, une au centre-gauche, donc périmètre Hollande, si on veut, une au centre-droit, périmètre Philippe jusqu'au LR, voire même une, parce que finalement, ces gens-là sont dans une telle situation d'échec que pour se qualifier au second tour, il va peut-être même falloir qu'ils fassent une espèce d'union du PS à LR, ce qui serait quand même la matérialisation de cette voie définitive de l'UMPS.
Le cadeau pour le Rassemblement National, la France Insoumise, et surtout, ça rejoint d'ailleurs ce que me disait ce conseiller justement, qui disait on va quand même pas appeler à voter Édouard Philippe dès le premier tour. Il commence en fait à se poser la question parce que de fait c'est peut-être le cadeau d'Emmanuel Macron, lui qui assumait le fait d'être l'extrême centre, eh bien il l'a tellement rabougri.
Finalement ça serait peut-être sa plus grande victoire.
Voilà, donc
fusion définitive des deux bords.
Imaginez Bruno Retailleau dans quelques mois devoir choisir entre Édouard Philippe ou Jordan Bardella. Voilà, donc c'est la limite. Et je rappelle d'ailleurs que les Républicains se prononceront dimanche sur le mode de désignation de leur candidat. On leur soumet à trois choix, soit la candidature de Bruno Retailleau, soit une primaire ouverte, c'est-à-dire ouverte à d'autres, aux gens, à des personnalités extérieures à LR, soit une primaire fermée, donc avec uniquement des personnalités LR. Alors, on me souffle dans les oreillettes que le match pourrait être un petit peu plié d'avance et que les LR, traumatisés par les primaires, préfèrent s'en remettre directement à Bruno Retailleau comme candidat. Enfin, écoutez, le jeu est ouvert et on parlait de la gauche, on parlait des Verts. On va parler des Verts avec Nicolas Boutin, mais pas les écologistes. Et je pense que tout le monde aura noté cette transition absolument magnifique. Bonsoir Nicolas Boutin, comment allez-vous ?
Bonsoir Marc, très bien vous ?
Bah écoutez, très bien, mieux que les supporters de l'AS Saint-Etienne, je crois.
Ah bah écoutez, il y a un suspense cette fois, c'est pas de savoir si oui ou non ils vont retrouver l'élite, mais si oui ou non ils vont pouvoir garder leurs associations de supporters.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé, oui, Nicolas ?
Eh bien, pour la deuxième fois en un an, il y a une menace très concrète de dissolution des deux groupes de supporters, des deux COP qui se trouvent derrière les buts. Vous savez, c'est ces endroits d'où partent les chants qui rendent un pauvre match entre eux, un pauvre match qui, enfin comment dire, un pauvre 0-0 entre Saint-Etienne et Concarneau, un peu plus agréable à regarder. C'est-à-dire que c'est une forêt de drapeaux, d'écharpes, de gens issus de toute la région qui se prennent par les épaules parfois, se jettent dans les bras. Et puis, finalement, c'est ce qui est aujourd'hui menacé de dissolution de la part de Laurent Nunez. Je vous le disais, il y a un an, Bruno
Alors, on embrasse les habitants de Saint-Etienne et de Concarneau, ceci dit. Hein, mais et pourquoi est-ce que Laurent Nunez veut mettre fin à ces crêpes de supporters de Stéphanois, Nicolas Boutin?
Bah, il se trouve qu'en fait, il y a effectivement un problème dans le football qui n'est pas nouveau, hein, vous me direz, mais il y a à la fois trop d'incidents, si tenter de savoir où est-ce qu'on met le curseur d'un incident, puisque aujourd'hui, le simple emploi d'engins pyrotechniques comme des fumigènes, par exemple, c'est considéré comme un incident, même s'il est dans le cadre festif. Et surtout, il y a trop de mobilisation des forces de l'ordre pour sécuriser les stades aujourd'hui dans le football. Et donc, pour en faire l'économie, eh bien, l'idée serait d'interdire les groupes de supporters. Mais si le constat est plutôt partagé, ne serait-ce que par les Magic Fans et les Green Angels, qui sont les deux associations stéphanoises concernées, la réponse, elle, diverge. Et même le club de l'AS Saint-Etienne soutient leurs supporters en disant que ce n'est pas en sanctionnant finalement les deux seules structures qui offrent à la fois une organisation, des leaders, des interlocuteurs pour les autorités, ce ne sont pas en le faisant disparaître que l'on va faire disparaître les incidents. Bien au contraire, c'est finalement donner la voie à avoir que des électrons libres, incontrôlables dans les tribunes et en dehors. Et c'est en débat, notamment devant lundi dernier, devant la Commission nationale de prévention de violence lors des manifestations sportives, où il y a eu donc où ont été reçus à la fois le club, les associations, et vont émettre un avis qui n'est que consultatif avant la décision du ministre de l'Intérieur.
Alors Étienne Tarjac, c'est ce body devant une candidature de François Hollande, mais il est aussi fasciné par la balle au pied, donc je laisse rebondir à vos propos, Nicolas Boutin.
Écoutez, il y a plusieurs éléments là-dessus. Je commence par dire d'où je parle. Je parle d'abord en tant que supporter lyonnais, donc je suis peu suspect d'affection pour les Stéphanois.
Mais pardon, justement, c'est quand même à souligner les supporters lyonnais.
J'y viens, cher Nicolas.
Ah oui, pardon.
Si vous pitchez vos répliques aussi, on va pas y arriver, messieurs.
et je parle d'autant plus, évidemment, toute blague sur Hollande mise de côté, comme en tant que militant de droite. Les ultras stéphanois, contrairement par exemple aux ultras lyonnais, sont réputés pour être assez largement de gauche, voire d'extrême gauche. Il y a même des ultras stéphanois antifa. Voilà. Je vous l'apprends. Et bien, malgré tout.
Oh non, pas tant que ça.
Malgré tout, je dis liberté pour les ultras, évidemment. Nicolas, vous avez parfaitement résumé les choses. Il y a deux aspects principaux. D'abord, le football sans les supporters n'existe pas, n'a aucun intérêt. Sans les ultras, les stades sont morts. Et effectivement, vous avez été un peu généreux en parlant de Saint-Etienne-Concarneau. Moi qui suis activement la Ligue 1 et les malheurs, en l'occurrence de l'Olympique Lyonnais, je peux vous assurer que vous n'avez pas besoin de descendre aussi bas dans le championnat de France pour voir des matchs infâmes devant lesquels on a plutôt envie de se pendre. Donc, sans les supporters, non, sans les ultras...
N'allez pas de telles extrémités, il y a un numéro vert pour cela, vert comme la couleur du maillot de Saint-Etienne d'ailleurs.
Donc évidemment que sans les ultras, le football perd tout son sens, perd toute son âme. Il en a déjà perdu une grande partie ces dernières années. C'est une première chose. Ensuite, la seconde, on en parlait un peu tout à l'heure sur la loi Yadan, avec cette espèce de fantasme, quand un interdit dans les choses, on règle les problèmes. Moi, je peux vous garantir que si Nunez interdit ces deux associations de supporters, qui sont des associations historiques, qui existent depuis des décennies, il aura peut-être moitié de moins de policiers mobilisés dans le stade, mais deux fois plus aux abords, parce que je peux vous garantir que ces ultras-là, comme d'ailleurs la plupart des ultras de France, ne se laisseront pas faire, et que ça castagnera sévère à la sortie du stade. C'est par ailleurs un sujet qui dépasse très largement Saint-Etienne. Il y a, vous l'avez dit Nicolas, une solidarité entre ultras, y compris entre clubs qui se détestent.
Et COP d'extrême droite et d'extrême gauche, pour parler vulgairement d'ailleurs.
Pour vous donner une indication, alors les COP lyonnais ont apporté leur soutien, mais il y a des COP beaucoup plus à droite en France. Le plus célèbre, c'est sans doute ceux de Reims, qui ont apporté leur soutien. Figurez-vous que...
Plus à droite que Lyon, ça existe.
Oui, mais je vous conseille de vous renseigner sur les mésos.
Je vous rappelle que c'est la ville de naissance de Raphaël Arnaud, Nicolas Boutin. Alors, mollo les Lyonnais, là.
Et je vous signale même que mercredi, lors du match de Ligue des Champions, entre le Bayern Munich et le Real Madrid, donc quart de finale de Ligue des Champions, diffusé sur toutes les
télévisions. Vous ne parlez pas de Lyon-Celta Vigo, je suis étonné.
Je vous emmerde, Marc. je vous signale qu'il y a une banderole qui a été déployée par les ultras munichois en soutien des ultras stéphanois. Donc c'est pour vous dire que, si vous voulez, la culture ultra, la culture des supporters de foot, elle est extrêmement ancienne, elle couvre toute l'Europe, et c'est pas une culture qui se satisfera, si vous voulez, d'une interdiction préfectorale de Laurent Nunez. Donc il pense, c'est parmi les problèmes, il va s'en créer à mon avis beaucoup.
Nicolas Boutin, je vous laisse réagir à cela si vous le souhaitez.
Pardon, j'étais très long, Nicolas.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ça dépasse Saint-Etienne, et j'ai même envie de vous dire que ça dépasse le football, parce que finalement, ce qu'on a pu voir dans les stades si on reste sur Saint-Etienne quelques secondes, les deux associations de supporters sont les deux plus grosses structures associatives du département de la Loire. Les parlementaires se sont engagés à leur côté, les élus de la mairie, que ce soit l'année dernière lorsque la mairie était de droite et aujourd'hui lorsqu'elle est de gauche, s'engagent derrière pour soutenir ces associations. Il faut savoir qu'ils viennent aussi, par exemple, ils font c'est pas pour enfin passer pour les enfants de cœur, mais ils participent aussi à la vie sociale. Ils mènent des actions avec la Ligue contre le cancer, par exemple. Ils essayent de s'impliquer dans la vie locale, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Et lorsque je dis que ça dépasse aussi le football, c'est que malheureusement on a vu depuis maintenant une vingtaine d'années beaucoup de lois, beaucoup de mesures être testées d'abord sur les supporters. Les supporters de football sont un petit peu l'avant-garde malheureusement de la répression qui touche la société. Lorsque les gilets jaunes ont découvert les tirs tendus de LBD lors de manifestations, eh bien il y avait déjà 3 supporters, dont un Lyonnais d'ailleurs, qui avait été éborgné quelques années auparavant, lorsque l'on a découvert pendant le confinement que oui, on pouvait empêcher des gens de circuler et de se rendre dans un tel lieu, eh bien oui, ça existe depuis maintenant une quinzaine d'années, où on a quand même eu des arrêtés préfectoraux qui ont dit que tout signe distinctif corse était interdit durant tout un week-end dans le département des Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, avec la diaspora, et puis ce que veut dire signe distinctif, c'est presque l'accent. Avec l'accent corse, on pouvait presque se retrouver avec une amende, voire en garde à vue. Et ça, malheureusement, ça fait des années que le dialogue a été rompu. On a essayé parfois de le remettre en place. Ça n'a jamais trop suffi, et en tout cas, jamais été finalement suffisamment efficace. Parce qu'on voit même qu'aujourd'hui, les groupes de supporters demandent de plus en plus à avoir un encadrement pour respecter les règles lors des déplacements de football. Il faut savoir quand même que toutes les nouvelles enceintes de tous les stades qui ont coûté des millions et des millions d'euros aux collectivités ont tous aujourd'hui un espace visiteur qui est impénétrable, sécurisé, qui ont des normes, que ce soit à Rodez comme à Paris. Et donc les supporters ont souvent demandé à ce qu'il y ait à la fois un accompagnement des clubs, des autorités, et ils étaient prêts à montrer patte blanche. La seule réponse qu'on leur apportait, c'était l'interdiction. Et par exemple, ce week-end encore, les supporters de Saint-Etienne ne pourront pas aller à Bastia, les supporters de Sochaux ne pourront pas aller à Dijon, les supporters de Nantes n'iront certainement pas à Rennes dans quelques semaines.
Sochaux est en Ligue 2, vous me l'apprenez.
Non, ils sont en 3e division.
Et puis alors, ça fait un petit moment, Marc.
Oui, c'est pour ça, je me disais aussi.
Division, dès qu'il y a des groupes de supporters, ça touche toutes les divisions, et c'est un jeu dangereux dans lequel malheureusement on s'est eu la complaisance, Et pourquoi? Parce que bah, les supporters, c'est assez facile de s'en prendre à eux. Rares sont ceux qui osent les défendre publiquement.
C'est ça qui est terrible, Nicolas. Merci Nicolas Boutin. Ça qui est terrible, c'est qu'on est dans une société de plus en plus violente et paradoxalement de plus en plus sécurisée. Et les endroits, justement, comme les stades de football, qui devraient être un petit peu des espaces de liberté, eh bien, sont les premiers à faire les frais de cette politique du tout sécuritaire qui en plus ne règle absolument pas les problèmes d'insécurité. Pour ceux qui trouveraient les supporters français violents, je les invite à se rendre en Europe de l'Est, aller voir notamment les derbies polonais entre par exemple le Lech Poznan et le Legia Varsovie. Ils verront ce que c'est que du hooliganisme, ou en Russie, vous avez raison, ou en Serbie. Enfin bref, la France n'est pas le meilleur élève dans cette partie, mais elle est loin d'être la pire. Merci à vous Nicolas Boutin, et merci aussi Étienne Darjac pour vos connaissances footballistiques. À très bientôt, restez avec nous chers auditeurs. Dans quelques instants, nous accueillerons l'écrivain, et on peut le dire, porte-parole des gueux, Alexandre Jardin. Avec lui, nous reviendrons sur la fin. On espère entériner les zones à faible émission, les fameuses ZFE. On y revient dans quelques instants, et en attendant, petit message de votre radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau Valentin.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Notre éditorialiste maison Étienne Darjac, et nous accueillons Alexandre Jardin, écrivain, on peut le dire un petit peu porte-parole des gueux, ce mouvement que vous avez lancé. Vous êtes toujours d'ailleurs en fer de lance dans ce combat contre les zones à faible émission, les fameuses ZFE. Pour resituer très rapidement, c'est un dispositif qui a été mis en place officiellement pour limiter la pollution et donc limiter les décès liés à l'émission de particules fines. C'est en tout cas comme cela que ça a été vendu, et on suppose que ce n'est pas du tout votre grille de lecture, Alexandre Jardin.
Non, parce que d'abord c'était pas vrai, puisque on voulait interdire un certain type de moteur, alors que justement les particules fines sont produites par les freins.
Oui.
Donc l'endroit le pire à Paris, là où nous sommes à Paris, l'endroit le pire c'est le métro.
Oui, très bien.
Parce que vous avez une concentration de particules fines, parce que ça accélère et ça freine, tout bêtement. Bon. Donc l'idée qu'on accepte en France le tri humain sur une base sociale, puisqu'en réalité c'était des millions de Français, plus de 20 millions au départ, qui tout simplement n'avaient pas les moyens de changer de... voiture.
Oui, on précise pour nos auditeurs que ceux, du coup, sont exclus du coup des métropoles. Des métropoles, effectivement, les voitures thermiques anciennes qui ne sont pas équipées des derniers filtres à particules, etc. Donc finalement, ça touche essentiellement
pas
les
si
classes.
Anciennes que ça, d'ailleurs. Oui. Ça
touche principalement les classes populaires qui n'ont déjà pas les moyens forcément d'habiter dans les hypercentres, mais qui y travaillent, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir en plus un moyen de fonction valable pour ces dispositifs, quoi.
Surtout que vous connaissez aujourd'hui le prix des voitures électriques. Et qui peut mettre 30-35 000 euros dans une R5 électrique, okay. En vrai, dans mon village de l'Aude, les gens ont des voitures qui valent autour de 2 000 euros. C'est ça, le vrai budget. Donc, en vrai, on leur disait, mais vous faites de la brioche. Mais comment manger de la brioche? Ah, vous ne pouvez pas, c'est dommage, vous êtes viré. Or, virer de quoi? Virer de la possibilité de travailler, les liens familiaux, aller se soigner. Les hôpitaux sont dans les ZFE. Par exemple, on sait qu'autour de Rouen, où il y avait une ZFE qui avait démarré, il y a eu une explosion des frais de taxi pour la Sécu, tout simplement, parce que les gens qui ne pouvaient pas aller, on envoyait des taxis, avec des courses à 300 euros. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je veux dire, donc, alors, voilà ce qui s'est passé. Le peuple s'est levé progressivement. Ça a mis beaucoup de temps. On a démarré en janvier 2025. Et on est arrivé à ce que 80% de la population tombe d'accord avec le mouvement des gueux. À ce moment-là, ça a permis, alors qu'il n'y avait pas de majorité numérique à l'Assemblée, de le voter de voter l'abrogation. Et il y a eu un député qui a été très en pointe, très gonflé, un ancien gilet jaune, et qui c'est souvent lié à l'énergie de quelqu'un, la vie. Il s'appelle Pierre Morin.
Député Rassemblement National, ouais. Du Gard, effectivement.
Mais l'homme, à un moment, il y a quelqu'un qui... Et puis, finalement, ils avaient embarqué une partie de LR, une partie de trucs, hein, et ça passe. Pourquoi ? Parce que les adversaires savaient que 80% de la population n'en voulait pas. En fait, ne voulait pas de rupture d'égalité. On n'allait pas virer les pauvres. On n'allait pas virer les classes moyennes. Et on allait rester des gens bien. Ouais. On allait rester des Français républicains.
Responsables, raisonnables en quelque sorte.
Oui, correct. Si on avait un cousin qui habitait à Montargis et qui n'avait pas les moyens de changer de voiture, finalement, il avait aussi le droit de venir voir Notre-Dame avec sa famille. Parce que il se trouve que Paris n'est pas juste une ville de Parisiens. Il se trouve que c'est aussi la capitale d'un peuple. Et donc, avant l'été, ça passe à l'Assemblée. Là-dessus, 9 mois de guerre, parce que le gouvernement est fou de rage, pour avoir la commission mixte paritaire Sénat.
Je fais juste une petite insiste pour préciser le contexte à nos auditeurs. Ce dispositif a été voté dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui date de 2021. Et ce qui est impressionnant, Alexandre Jardin, et peut-être que vous allez l'évoquer, c'est que le gouvernement est fou de rage, vous l'avez dit, mais nous, par exemple, journalistes, on a essayé d'organiser des débats entre plusieurs politiques pour et contre. Alors, trouver des députés contre, alors ça, on avait Pierre Meurin, mais il n'y avait pas que lui. Mais par contre, c'était extrêmement compliqué de trouver un responsable politique, arriver devant des centaines de milliers d'auditeurs et assumer ce dispositif. C'est ça qui était absolument orwellien.
Ça m'étonne pas que vous ayez vécu ça, parce qu'en réalité, ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de moche, humainement, un truc un peu cracra, et donc ils espéraient que ça passe un peu en dessous. Donc ça m'étonne pas du tout. Et puis, les motards en colère ont fait des manifs avec les gueux, et puis, au mois de janvier, la commission mixte paritaire, il y a un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est voté. Et ça devait être aboli, abrogé, le 21 janvier. Là, fou de rage, le gouvernement, le 20, à 20h, il y a un petit gris de Matignon qui arrive, qui dit « Non, non, on ne vote plus !» Et donc, on a d'autres trucs à voter. Bon, allez. En fait, ils ne voulaient pas. Et ils voulaient se donner le temps de retourner des députés LR. Ils ont essayé. Et ils y sont parvenus pour certains. Et quand j'ai senti le truc avec... Une jeune députée de Mayenne qui s'appelle Anne-Laure Blin.
Non, du Maine-et-Loire, pour être plus précisément. Ouais. Mais vous avez Anne-Laure Blin, tout à fait, oui.
Elle m'appelle, elle est effondrée. Elle me dit, mais il est en train de se passer quelque chose d'indigne. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais on va faire une tribune dans le Figaro et tu vas courir partout pour rameuter tous les députés LR qui voudront bien signer ça. Elle a pris son téléphone. Moi, je me suis occupé de beaucoup de sénateurs. À 17h, le même jour, on en avait 50. On lance dans le Figaro, c'était le week-end, donc, pour que ça paraisse en début de semaine, avant le vote. Et puis Anne-Laure Blin continue comme une forcenée, et puis elle a son club de copines, et finalement ça monte à 100 de parlementaires LR. Là-dessus, pour des tas de raisons de papier, de trucs, ça sort pas le lundi au Figaro, ça sort le mardi matin. Et tous ces gens qui avaient signé ne se sont pas dédits. Ils sont venus et c'est passé haut la main. Et il y a eu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au-delà de l'acte technique ? Le peuple comprend qu'il peut gagner. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué qu'il y avait une sorte de sens de l'histoire qui était de virer les pauvres, en gros, pour purifier l'air des riches. Mais c'était le sens de l'histoire. Cette ignominie, parce que c'est quand même ignoble, comment est-ce que des gens à peu près raisonnables se sont dit on va faire une petite saloperie à grande échelle. Eh bien, le peuple peut gagner. Les gens qui nous écoutent doivent savoir que quand on se mobilise, quand on lance une campagne d'opinion et qu'on réussit, on gagne. Alors, il y a plein de gens qui disent que le Conseil constitutionnel va nous tailler les oreilles en pointe. Et d'ailleurs, fort élégamment, le gouvernement, les membres du gouvernement, le soir même, se sont précipités à la télévision pour dire « Mais on aura notre revanche avec le Conseil constitutionnel. » En gros, ils disaient « La démocratie, non. Le vote du Parlement, Non.
Ouais.
C'est, on vous emmerde, c'est... on vous baisera, pardon, je vais être très vulgaire, on va vous avoir avec les juges. Mm.
Ce qui, quand même...
Je précise, pardon, Alexandre Jardin, juste pour nos auditeurs. Alors, ce qu'on reproche effectivement à cet amendement donc, du député RN Pierre Meurat, on lui reproche d'être un cavalier législatif, c'est-à-dire d'être un amendement qui n'a pas de rapport établi avec le texte dans lequel il s'est rajouté. Et du coup, le Conseil constitutionnel pourrait décider cet amendement n'a rien à faire dans ce projet de loi et donc nous le supprimons. Juste pour, en tout cas, oui. Ce serait l'argument juridique.
Alors, c'est en gros la campagne lancée par toute la Macronie sur toutes les chaînes de radio, de télé, de machin, l'idée étant d'essayer de persuader tout le monde qu'il y aurait un cavalier. Je vous rappelle que quand même, donner le droit à tout le monde d'accéder à un travail sur tout le territoire est une simplification fondamentale. Mmh. Parce que...
Là, c'est moins de normes, moins de contraintes, et du coup, oui, dans l'absolu...
C'est une simplification très fondamentale. C'est-à-dire... Donner à chacun le droit de travailler n'importe où en France.
Mmh. Ouais.
C'est fondamentalement une simplification. Ce que je dis, c'est que effectivement, le Conseil constitutionnel a été... on a introduit dedans toutes sortes de copains politiques, à commencer par le président, qui est un très proche de celui qui est encore à l'Élysée. Et donc, peut-être qu'il serait tenté d'une sorte de revanche politique. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait une crise de régime.
Mmh.
Parce que serait posée vraiment la question. Là, il y a 80% d'un peuple qui veut quelque chose.
Mmh.
Il y a 4 votes au Parlement. Il y a un mouvement, une mécanique parlementaire adossée à une nation. Or, quel est le sens de tout ça, d'une démocratie ? C'est vaguement... qui se passe, qui correspond aux aspirations populaires. Mmh. Donc, on peut
la majorité décide, tout simplement.
Oui,
en fait,
tout simplement. Et puis, comme la vie est relativement courte, c'est sympa que notre pays ne soit pas un enfer dans le temps qui nous est imparti. Mmh. Et au fond, c'est ça, la démocratie. Donc, il y a une perte de sens.
Mmh.
Mais de sens, c'est absolument élémentaire. Mmh. Alors, si jamais il jouait à ça, on lancera, nous, des outils référendaires à la mi-mai, on en parlera ici, à l'heure actuelle, à la mi-mai,
sûr.
Où les Français pourront voter. On est en train de construire une infrastructure sur une blockchain pour que les Français puissent voter avec leur carte d'identité, de manière à fiabiliser intégralement tout le processus,
la transparence du processus.
Inutile de vous dire que si il leur passait par la tête d'attaquer la nation, on la fera voter. Et on va doucement habituer notre peuple à reprendre le contrôle de sa vie. On veut une révolution démocratique. C'est pas mal, la démocratie.
La démocratie est la Suisse,
oui.
C'est ce que vous dites.
À partir du moment où les systèmes de représentation sont capables de dysfonctionner à ce degré, il va bien falloir qu'on remette le peuple dans l'expression... de sa volonté. Or, pour que le peuple compte, il faut qu'il se compte.
Merci beaucoup, Alexandre Jardin, d'avoir été avec nous pour évoquer la fin, on espère, en tout cas, des zones à faible émission. Et bravo pour votre engagement dans la vie de la cité. Restez avec nous, chers auditeurs, puisque nous recevrons dans quelques instants Max Erwan Gatineau, essayiste et surtout grand spécialiste de la Hongrie. Avec lui, nous reviendrons sur l'élection de Péter Maillard au poste de Premier ministre de Hongrie. Et surtout, nous reparlerons de cette fin de règne pour Viktor Orban, qui tire sa révérence après 15 ans de règne, on peut le dire, de règne démocratique quand même, sur la Hongrie. À tout de suite, chers auditeurs. Tout d'abord, de tout petits messages de votre radio, ainsi qu'une très légère pause musicale.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. We'll be right back.